Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir, chers amis auditeurs. En ce mercredi 3 février, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal, suivi d'un commentaire politique. Révolution colorée atteint le royaume des Salman, Soros veut la tête de MBS. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, accord nucléaire et les États-Unis, le président iranien Hassan Rouhani tranche. La mission de l'Iran à Vienne annonce l'installation de nouvelles centrifugeuses à Natanz et à Fordow. Et puis les appels à la désobéissance civile se multiplient au Myanmar suite à un coup d'état militaire dans le pays. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Accord nucléaire et les États-Unis, le président iranien tranche, je vous le disais en titre. Le président Hassan Rouhani a déclaré que les États-Unis devraient se conformer à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui endosse l'accord nucléaire et qui a approuvé l'accord nucléaire de 2015. Les Américains doivent savoir qu'ils ont violé jusqu'à aujourd'hui la résolution 2231, alors qu'ils ne doivent pas parler du plan global d'action commun sur le nucléaire JCPOA. L'enjeu n'est pas tant l'accord nucléaire que la résolution de 2231 du Conseil de sécurité. Ce n'est pas une question iranienne, cette résolution relève du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-il dit. Le président Rouhani a réaffirmé que si les États-Unis respectent la loi et remplissent leurs obligations, l'Iran respectera à son tour pleinement ses engagements. Hassan Rouhani a qualifié d'absurde de dire que l'Iran devrait revenir à l'accord nucléaire car l'Iran ne l'a jamais quitté, a-t-il insisté. Le président iranien a également déclaré qu'aucune disposition de l'accord ne changerait et qu'aucun nouveau membre ne le rejoindrait. Il a rappelé que le monde entier croyait largement que l'accord avec l'Iran pouvait être bénéfique pour la sécurité, la paix et l'unité internationale. En 2018, les États-Unis de Trump se sont retirés unilatéralement de l'accord et ont rétabli les sanctions contre l'Iran. Les États-Unis refusent toujours de réintégrer l'accord nucléaire. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Price, a déclaré que les États-Unis cherchent à étendre le plan d'action global conjoint en incluant le programme de missiles balistiques de l'Iran dans les négociations futures, une idée que Téhéran a catégoriquement rejetée. Plutôt, un porte-parole de l'Union européenne a déclaré que le bloc fait pression sur Washington pour qu'il lève les sanctions contre Téhéran et qu'il travaille dur pour maintenir l'accord multilatéral nucléaire en vie. Ces réactions sont intervenues après que le haut diplomate iranien Mohammad Javad Zarif eut déclaré que l'Union européenne pouvait synchroniser une reprise coordonnée de l'accord. Washington s'est retiré unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. En réponse, Téhéran a réduit ses engagements. La République islamique d'Iran a déclaré qu'elle annulera son plan de réduction des engagements une fois toutes les parties honorent leurs obligations. La mission iranienne à Vienne annonce l'installation de nouvelles centrifugeuses à Natanz et à Fordow. L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran à Vienne, Kazem Gharibabadi, a annoncé l'installation de nouvelles centrifugeuses sur les sites Natanz et Fordow dans le cadre de son plan de réduction de ses engagements liés à l'accord nucléaire violé par les États-Unis. Tout en remerciant les scientifiques nucléaires de notre pays, deux chaînes de 348 centrifugeuses de type IR2M d'une capacité d'environ 4 fois plus que le type IR1 ont été installées avec succès à Natanz et travaillent avec des modèles UF6, a déclaré mardi 2 février l'ambassadeur d'Iran et représentant permanent auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Gharibabadi. L'installation de deux chaînes de centrifugeuses IR6 a également commencé à l'usine d'enrichissement de Fordow, annonce encore le diplomate, ajoutant que davantage de nouvelles centrifugeuses seraient installées. L'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA peut procéder toujours à des activités de contrôle en Iran et sera informée de l'avancement des projets d'installation, a-t-il précisé. En riposte au retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action commun sur le nucléaire iranien de 2015, PGAC, et au retour des sanctions contre l'Iran, Téhéran a suspendu la mise en œuvre de certaines de ses obligations liées au pacte multilatéral, je vous le disais, au titre de l'accord. En Iran, les femmes occupent 25% des postes de direction intermédiaires et supérieurs. Le président Hassan Rouhani déclarant qu'aujourd'hui 25% des cadres intermédiaires et supérieurs sont occupés par les femmes a déclaré « Dans toute élection, si les femmes décident et entrent en scène, leur candidat l'emportera ». S'exprimant à l'occasion de la journée de la femme, Hassan Rouhani, tout en présentant ses meilleurs vœux à l'occasion de la bienheureuse naissance de la vénérée Fatima Zahra, fille du noble prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance, a déclaré « La journée de la femme est le jour de celles qui sont fières d'être adeptes de la vénérée Zahra, bénie soit-elle ». Faisant référence à la coïncidence de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique avec la naissance de la vénérée Zahra et la journée nationale de la femme, le président Rouhani a déclaré, je cite, « Les femmes ont joué un rôle important dans la révolution islamique et la révolution aussi a joué un rôle important dans le développement et l'épanouissement des femmes iraniennes ». L'Iran bientôt parmi les 5 plus grandes puissances spatiales du monde. L'avenir spatial de l'Iran est clair et dans les prochaines années, l'Iran sera parmi les 5 premiers pays dans le domaine spatial mondial, se félicite mardi le ministre des Communications Mohammad Javad Azari Jahromi. Pour le ministre des Communications iranien, dans un proche avenir, l'Iran sera l'une des 5 puissances spatiales au monde et ce n'est pas du tout du bluff. Ne regardez pas les lancements infructueux, dit-il. Nous nous corrigerons à chaque lancement échoué et si le prochain lancement est réussi, nous connaîtrons une croissance, précise-t-il. Nous sommes sûrs que le succès est proche avec les programmes prévus et que l'avenir spatial de l'Iran sera très prometteur. Le satellite TLU, construit par le ministère de la Défense, est prêt à être lancé et sera mis en orbite avec le satellite Simorgh avant la fin de l'année, a-t-il promis. Direction l'Europe avec l'Italie. Le président italien a déclaré vouloir nommer un nouveau gouvernement après l'échec des négociations visant à relancer la coalition précédente. Sergio Mattarella a ajouté qu'il ne voulait pas organiser des élections anticipées, arguant que le pays avait besoin d'une administration forte pour faire face à la pandémie de Covid-19 et à la crise économique qui en résulte. Sergio Mattarella s'est prononcé mardi soir pour un gouvernement de haut niveau à même d'affronter les graves crises actuelles sanitaires, sociales, économiques, une définition correspondant parfaitement à celui qui est crédité d'avoir sauvé la zone euro en 2012 en pleine crise de la dette, tout en lançant un appel à tous les partis politiques pour qu'ils soutiennent ce gouvernement. Il a également exclu la tenue d'élections anticipées en pleine pandémie. Alors que l'ex-premier ministre italien Giuseppe Conte n'est pas parvenu à ressouder sa coalition politique, le président de la République Sergio Mattarella a convoqué Mario Draghi mercredi et devrait lui confier la tâche de former un nouveau gouvernement. La coalition au pouvoir du premier ministre Giuseppe Conte s'est effondrée le mois dernier après que l'ancien premier ministre Matteo Renzi a retiré son parti Italia Viva. Ils ont accusé Conté d'avoir mal géré l'urgence sanitaire et la crise économique qui en a découlé. Autre thème, c'est le Myanmar. Les appels à la désobéissance civile se multiplient au Myanmar pour protester contre un coup d'État qui a renversé le chef de facto du pays, Aung San Suu Kyi, les médecins et les infirmières des dizaines d'hôpitaux et de centres médicaux de 30 villes se sont mis en grève, manière d'exprimer leur colère. La campagne a jusqu'à présent attiré quelque 150 000 abonnés sur sa page Facebook. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence sur le Myanmar, mais il n'a pas réussi à s'entendre sur une déclaration concernant le coup d'État. L'armée a mis brutalement fin lundi à la fragile transition démocratique du pays en instaurant l'état d'urgence pour un an et en arrêtant la chef de facto du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, ainsi que d'autres responsables de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie. Enfin, des experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, enquêtant sur les origines de COVID-19, ont visité un important laboratoire de recherche sur le virus dans la ville chinoise de Wuhan. Le laboratoire était au centre des théories du complot selon lesquelles le nouveau coronavirus trouve son origine dans ce labo. La théorie affirme qu'une fuite de laboratoire a provoqué l'épidémie de Wuhan en décembre 2019. La ville chinoise de Wuhan a été le premier endroit au monde à signaler des infections à Covid. La plupart des scientifiques ont rejeté la théorie de complot. L'équipe de l'OMS a commencé son enquête en Chine la semaine dernière. Les experts onusiens ont déjà visité des hôpitaux clés et un marché de fruits de mer de Wuhan. C'est de là que le premier groupe d'infections à Covid est apparu. L'ancien président américain Donald Trump a accusé l'Institut d'avoir laissé fuiter le virus à l'origine du Covid-19, provoquant une pandémie mondiale selon lui. Une accusation qui a été fermement démentie par Pékin. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Révolution colorée atteint le royaume des Salman, Soros veut la tête des MBS. C'est l'heure, les démocrates arrivés au pouvoir à la Maison-Blanche n'iraient pas descendre Ben Salman tant pour ses liens viscéraux avec Trump, comme tentent de le faire croire certains analystes, que parce qu'il est grand temps qu'on se débarrasse d'un pion brûlé. À l'interne, MBS avait pour mission de brader le pétrole saoudien sur l'autel des boursiers américains, de dilapider autant que faire se peut les derniers publics en échange des armements de patrouille made in USA, de surtout de faire infiltrer Israël en terre sainte des musulmans via une refonte des mœurs, Neom et autres projets fous à l'international. Il avait pour mission de remplacer Israël, ennemi juré des Arabes et des musulmans, par l'Iran, de financer au profit là encore d'Israël les guerres au Yémen, au Liban, en Irak, voire au Qatar, soit tous les États-nations énergétiquement et géostratégiquement riches et imposants du Moyen-Orient. 5 ans après avoir été investi prince héritier par une purge intersaoudienne que la CIA et le Mossad ont appuyée et pilotée à fond, force est de constater que l'Arabie n'est plus que l'ombre d'elle-même, à savoir un État riche mais endetté, un acteur régional inexistant, une pure subalterne à la merci d'un oui ou d'un non de Washington. D'où cette manif éclair qui a éclaté un peu à la manière des révolutions colorées made in Soros au corps wahhabite du royaume, avec ses images largement diffusées via des réseaux sociaux, mettant en scène des jeunes brûlant des pneus et jetant des pierres. La ressemblance avec les jokers des rues de Bagdad que l'ambassade US avait payé en 2019 pour qu'ils descendent dans la rue, renverser le gouvernement pro-résistance et pro-Hacht, Adel al-Mahdi a été d'ailleurs bien frappante. Voilà, c'était quelques extraits de cet article dont vous pouvez trouver l'intégralité sur notre site french.presstv.com. Bonne lecture.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous aurons un débat prometteur. Nous allons parler de la Russie. Alors depuis quelques jours, l'opposition fait pression sur le gouvernement dans plusieurs villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors les rassemblements étaient relativement faibles dans les autres villes, mais à Moscou, où les partisans de l'opposition pro-occidentale Alexei Navalny étaient bien plus nombreux. Alors, le retour volontaire de Navalny en Russie relève d'une opération hybride soutenue certainement par des pays de l'OTAN, peut-être pas, et même la CIA. Alors, cette opposition profitant de la frustration du peuple russe avec les mauvais temps donc de Covid-19 pour les encourager de participer à des manifestations. Alors, quand on regarde les vidéos, on voit plutôt les policiers, des journalistes ou bien des spectateurs que des manifestants dans les manifestations. Voilà. Nous allons essayer de voir plus clair à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues et on sera avec vous juste après. Vous restez avec nous.
Le retour d'Alexander Navalny, un agent de longue date de la CIA en Russie, a étonné l'ensemble des observateurs que nous sommes. Retourné sans aucune couverture dans un pays comme la Russie, pays doté d'une très solide tradition dans le contre-espionnage, est sinon un acte suicidaire, du moins très téméraire. Cependant, les choses commencent à devenir claires. Le retour volontaire de Navalny en Russie relève d'une opération de guerre hybride de grande envergure, soutenue par l'ensemble des divisions des opérations clandestines des pays de l'OTAN. Cette fois-ci, la CIA a mis le paquet. L'objectif du retour et de l'arrestation attendue de Navalny en Russie est une révolution colorée de nouvelle génération. Comme dans la plupart des pays du monde, la situation socio-économique en Russie est loin d'être parfaite. L'impact du Covid-19 a aggravé un marasme générateur d'une très forte frustration populaire. Cette frustration s'est transformée en une forme de colère extrême dans certaines régions russes, notamment en Sibérie et dans l'extrême-orient russe. Aux difficultés économiques s'ajoute un verrouillage du champ politique, une tendance universelle donc que beaucoup de Russes n'arrivent plus à supporter. L'influence du néolibéralisme à l'occidental en Russie est quasiment du même niveau que celui ayant emporté l'enthousiasme de beaucoup d'Ukrainiens avant de les emporter dans une tourmente qui semble sans fin. Mais à la différence de l'Ukraine, la Russie dispose de grands stratèges capables de discerner les menaces les plus insidieuses et de les anticiper. L'opération Navalny fait donc partie des opérations déclarées utilisant la thématique de l'opposant déclaré, donc bénéficiant d'une médiatisation et d'un soutien internationaux. C'est la hantise de la Chine car le champ de la confrontation dans ce cas de figure est réduit à un ensemble de règles de jeu politiquement correctes et superficielles. Les manifestations de soutien à Navalny en Russie ne sont pas le résultat d'une quelconque popularité de cet agitateur professionnel, mais de la mise en place effective d'un large réseau de soutien et de subversion par la CIA, le BND allemand, le MI6 britannique, l'AIVD néerlandais, le CSIS canadien, le Vali Sluheramet estonien et tant d'autres services spéciaux hostiles à Moscou. Les militaires russes ont acquis une certaine expérience dans la lutte contre les guerres hybrides. L'opération Navalny est audacieuse mais a peu de chances d'aboutir à une révolution. Elle servira à sonder la solidité de l'appareil d'État russe face aux nouvelles menaces asymétriques et à l'ingénierie sociale de la déstabilisation via les réseaux sociaux qui ne sont que les outils de combat de l'État profond américain. La Russie sera donc obligée de renforcer ses capacités de guerre hybride qu'elle a développées depuis quelques années et d'augmenter ses capacités de cyberguerre en créant ses propres réseaux sociaux et, à terme, son propre Internet. Cette dernière option, poursuivie par la Chine, est devenue essentielle pour la survie d'une puissance militaire comme la Russie face à la multiplication des menaces hybrides autour de son sanctuaire.
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Eli Hatam, juriste international depuis Paris. M. Hatam, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à monsieur, à votre invité également.
Merci à vous. Un grand bonjour à M. Fabrice Béor, expert pour l'ONG EOD depuis Moscou. M. Béor, bonjour.
Bonjour. Bonjour l'Iran et bonjour la France.
Voilà, alors ma première question va s'adresser à M. Hatam depuis Paris. M. Hatam, pourquoi, quand on parle de l'opposition russe traduite par ce M. Alexei Navalny, on parle de pro-occidental néolibéral? Pourquoi cela?
Parce que c'est très simple, l'opposition c'est un terme très large. On utilise cette expression pour démontrer les gens qui ne sont pas en faveur du régime. Il y a effectivement une opposition parlementaire au sein de la Russie, mais toute personne, tout groupe politique qui est hostile au gouvernement, on le considère comme opposition. Aujourd'hui, il y a certains courants politiques en Russie, comme d'ailleurs dans d'autres pays du monde, et qui sont stipendiés par l'étranger, en particulier par les Occidentaux, c'est-à-dire en particulier par l'OTAN. Pourquoi ? Parce que l'OTAN voyait d'un très mauvais œil le retour de Moscou sur la scène politique internationale, incarné par cette action politique du président Poutine qui a redonné à la Russie son image et son poids sur la scène politique internationale. Nous avons vu une première démarche qui est celle de la guerre qui a été entamée indirectement pour déstabiliser la Russie, soit en Tchétchénie au départ, qui a été matée par la Russie, mais surtout après avec l'Ukraine, où nous avons quand même été dévoilés les échanges entre ce qu'on appelle le soft power américain par l'intermédiaire de M. Soros
Monsieur et Hatam.
D'autres pour agir sur l'opinion publique et oui. La remontée contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, on fait la même chose, c'est-à-dire ces Occidentaux, l'Allemagne et les autres également pays et groupes de pays qui sont pro-américains, qui ont un intérêt qui est celui de la déstabilisation de la Russie à travers deux groupes sociaux qui sont peut-être mécontents, effectivement, du gouvernement russe, mais dans un seul objectif qui est celui de la déstabilisation de l'État russe. C'est ce qui explique aujourd'hui cette appellation d'une opposition pro-occidentale qui est stipendiée, qui est manipulée par ceux qui ont un intérêt à affaiblir la puissance russe sur la scène internationale.
Oui. Monsieur Béor, vous êtes avec nous depuis Moscou. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Hatam quand il parle donc d'un retour volontaire de chef de l'opposition russe Navalny? Est-ce que ce retour et son arrestation a fait obstacle à la bonne image que la Russie a donnée dans les pays occidentaux et dans le monde, et surtout depuis l'OTAN?
Il y a deux éléments que j'aborderai d'ailleurs très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et 20 à 30 minutes, ça suffirait pas. Juste un petit aparté qui sera aussi très très rapide, c'est la présentation que vous avez faite. Je suis absolument pas d'accord pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de marasme économique en Russie. Certes, dans le cadre de la crise sanitaire mondiale qui n'est pas à l'origine, mais qui a révélé effectivement un problème systémique au niveau mondial, la Russie également est impactée, mais est moins impactée pour plusieurs raisons. Un, parce qu'elle a un gouvernement souverain qui agit donc directement sans devoir attendre, par exemple, je fais une comparaison évidemment avec l'Union européenne qui est un non-État, déjà premièrement. Deuxièmement, c'est un État qui n'a pas monétisé la crise, et ce qui va d'ailleurs dans le futur être positif pour lui, alors que les pays occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne, la zone euro tout du moins, ne vont que créer, multiplier les problèmes dans le futur. Et puis, d'un point de vue politique, non. D'un point de vue politique, en Russie, la majorité vote pour Poutine. Les derniers sondages qui datent de quelques jours, c'est plus de 66%. Donc non, il y a deux oppositions. Il y a une opposition qui est, on va dire, parlementaire. Celle-ci, effectivement, comprend vraiment un spectre assez large, parce que dans les manifestations, effectivement, qu'il y a eu, on pourra parler de cela, mais dans les manifestations, une bonne partie des vraiment, entre guillemets, manifestants, et pas les spectateurs, et pas les enfants manipulés, c'était des militants du KPRF. Le KPRF, c'est le Parti communiste de Fédération de Russie, et à la différence de l'Occident, ces gens-là sont patriotes. Et évidemment, c'est incompréhensible en Occident où ces gens-là se deviennent masochistes. Mais ce ne sont pas vraiment KPRF, ce n'est pas des gauchistes comme en France. C'est autre chose, il faut le comprendre. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a l'opposition qu'on appelle donc libérale. Et cette opposition libérale, il faut la prendre dans le sens français du terme, c'est-à-dire économique, et dans le sens américain du terme, c'est-à-dire sociétal. C'est vraiment ce mélange-là, et Navalny est vraiment ce symbole-là. Nous avons cela. Mais le fait que Navalny, pour répondre directement à votre question, et j'espère rapidement, pour répondre le fait, c'est que c'est une opération de A à Z, parce que le fait qu'il ait été extrait à Berlin n'est pas un hasard, parce qu'à Berlin, il y a une tendance aujourd'hui, effectivement, ce que j'appelle le parti américain, et dans le cas précis, le parti américain à Berlin, qui travaille pour les États-Unis contre les intérêts même de leur pays, à savoir, dans le cas précis, de leur souveraineté énergétique. C'est le Nord Stream 2. C'est-à-dire le gazoduc qui va être doublé, et il cherche n'importe quel prétexte pour ne pas le faire. Et cela fait partie, l'opération a commencé quand Navalny est sorti du coma. Et là, on a eu tout le narratif, et j'espère que je pourrai répondre à ce narratif, parce qu'on peut le démonter très rapidement valider, évidemment, que tout cela, c'est d'une propagande, mais qui est très bas, de très bas niveau en réalité en Occident, mais qui passe parce qu'on n'a pas les éléments. C'est ces éléments que j'aimerais bien effectivement aborder, mais juste pour terminer sur votre question, évidemment c'est une opération de déstabilisation, parce que le but dans le cas précis, c'est de continuer de refaire une révolution de couleur. Mettez en perspective que les élections législatives en Russie, c'est en septembre de cette année, et il est bien évident, puisque ça a toujours été la politique américaine, le premier de containment et après de division, de déstabilisation de l'État et de division de l'État en plusieurs structures, pour afin simplement de perpétuer la continuation de la domination mondiale de l'impérialisme américain, puisque en géopolitique, et je terminerai vraiment là-dessus, la géopolitique américaine, il faut dominer le monde, c'est toujours Carthage contre Rome, les États-Unis étant la nouvelle Carthage, Moscou étant la troisième Rome, et il faut donc c'est toujours la mer contre la terre, le centre du monde continental, c'est l'Eurasie, et le centre de l'Eurasie, c'est la Russie, le seul État indépendant aujourd'hui en Europe, et il faut donc tout faire, et c'est... les Russes sont en fait très démocratiques et très pacifiques et très patients, puisqu'ils parlent toujours de leurs partenaires occidentaux, alors qu'en fait, on est dans une guerre froide aujourd'hui totalement affichée, puisqu'on est dans une campagne de propagande totale. Oui, c'est Navalny, aujourd'hui, le retour de Navalny fait partie d'une campagne de propagande de déstabilisation du gouvernement russe, de l'État russe, des structures russes, mais lorsqu'on creuse un peu, c'est un échec total, mais ils essayent de le compenser avec un surplus de propagande et de déclarations, on va dire, moralistes.
Tout à fait. Maître Haratam, alors ce projet de déstabilisation de la Russie avec le retour volontaire de Navalny, et la seconde, après son arrestation, on voit le monde occidental qui réagit très fortement en condamnant cette arrestation. Alors, est-ce que ce projet de déstabilisation a réussi jusqu'à présent?
Écoutez, c'est que, comme l'a très bien indiqué tout à l'heure Fabrice, c'est très curieux ce retour de M. Navalny en Russie, alors qu'il savait très bien qu'il y avait une procédure qui était engagé, qu'il était sous contrôle judiciaire. Si cela arrivait en France, il aurait eu le même sort, parce que c'est l'avocat qui parle, c'est une procédure normale, un non-respect d'un contrôle judiciaire permet ipso facto à un juge d'instruction de mettre la personne qui n'a pas respecté le contrôle judiciaire en détention. Et c'est ce qui s'est passé, et lui, il savait très bien, pertinemment, le résultat. Et les forces qui sont derrière lui, autrement dit l'Allemagne, les États-Unis, vous avez indiqué les services secrets américains, la CIA, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que c'est un projet politique de déstabilisation de son adversaire, comme à l'époque également l'Union soviétique faisait la même chose avec les États-Unis. Il faut aboutir à un résultat. de propagande médiatique pour démontrer qu'il y a un irrespect de certains principes par la Russie, alors qu'on oublie d'ailleurs qu'aux États-Unis, c'est pire avec les élections américaines. On a vu quand même une république bananière américaine digne d'ailleurs de cette qualification. Et donc, on a voulu démontrer qu'en Russie, il y a ce problème. Il y a également une personnalité politique qui est en quelque sorte persécutée par les tribunaux et utilisée, si vous voulez, donc cette arrestation qui, d'un point de vue encore procédural, est tout à fait normale pour démontrer qu'en Russie, actuellement, on est revenu en fait à ce qui se passait sous l'Union soviétique. Alors j'ouvre une parenthèse d'ailleurs, et on n'a jamais souligné, on n'a jamais rappelé que en Occident, notamment en France, il y a des prisonniers d'opinion. Il y a plusieurs personnes qui ont été emprisonnées parce que les tribunaux et les juridictions nationales françaises ont estimé que des propos, des vidéos ou bien des écrits sont contraires à certains textes, à une réglementation française. Et donc, cette opinion qui est émise par ces personnes a conduit les juridictions française, donc occidentale, non pas simplement à prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis, mais à faire détenir ces personnes en les mettant en prison. Chose qui est qu'on voyait d'ailleurs sous l'Union soviétique. Donc, encore une fois, c'est ça le poids donc des médias. Il y a toute une machine médiatique, il y a un projet qui a été conçu pour utiliser cela, pour tenter de déstabiliser la Russie. Mais comme l'a très bien souligné également Fabrice, aujourd'hui, réellement, si vous discutez avec la rue, avec l'opinion publique russe, ils savent très bien que, d'une part, comme je l'ai expliqué, comme Fabrice l'a également souligné, c'est qu'il y a une véritable opposition, comme dans tous les pays, qui est parlementaire et qui est même aussi au niveau donc, des partis politiques. Mais là, on vient aujourd'hui vous dire que l'opposition, c'est M. Navalny. M. Navalny qui est retourné en Russie pour avoir cette popularité, pour pousser en fait la population à se révolter contre l'État, contre le gouvernement.
D'accord.
Eh bien, nous avons vu que malheureusement pour eux, et puis heureusement d'ailleurs pour la Russie, l'opinion publique et le peuple russe a montré une certaine compréhension, bon, et avec une petite exception de ceux qui manifestent. Il y a certaines personnes, on le sait très bien, nous l'avons vu pendant le printemps arabe, qui ont été payées, stipendiées donc par l'étranger, pour participer à ces manifestations.
Tout à fait.
Pour montrer devant les écrans qu'effectivement, il y a des manifestations sur place, en essayant quand même de gonfler le nombre et de démontrer par des moyens audiovisuels qu'effectivement, il y a un mécontentement au sein de la Russie.
Mais, bien sûr. Fabrice Péard, c'est vrai que la gestion de la crise sanitaire en Russie était bien meilleure que les autres pays, surtout les pays occidentaux. Mais jusqu'où va continuer cette attention de ce projet de déstabilisation de la Russie? Quand on voit les moyens dont ils ont recours, l'opposition, comme invitant les jeunes dans les réseaux sociaux de 14 à 16 ans de former un bouclier humain pour que les policiers n'attaquent pas les manifestants, ou bien d'autres manières donc de provoquer la population en profitant de la frustration du peuple russe, par exemple, pour exprimer leur colère et leur mécontentement. Est-ce que ce projet de déstabilisation va être traduite prochainement par une révolution générale?
Non, ça c'est le rêve de l'AND, enfin c'est de la CIA en fait, hein. C'est puisque Navalny a été financé légalement jusqu'à 2015 par l'AND, c'est-à-dire un fonds du Congrès américain, mais qui est en fait le cache-sexe de la CIA pour le financement des révolutions oranges. C'est clair, c'est officiel, il suffit de lire de toute façon les déclarations américaines. Ils ont au moins l'avantage de dire clairement ce qu'ils font, sauf qu'en France on ne le dit pas, c'est interdit, c'est complotiste. Et donc c'est le rêve, mais non, le but en fait de Navalny, c'est ce qu'on appelle un agent de l'étranger, parce qu'il est financé par l'étranger. C'est un terme qui choque les Occidentaux en oubliant que ça a été copié sur une loi américaine. Mais là, ça choque pas parce que c'est aux États-Unis, mais ça choque parce que c'est en Russie. Mais Non, ça c'est une... Navalny, on l'appelle monsieur 2%, parce qu'aux élections, quand il se présente, les dernières fois, c'est 2%. C'est concentré spécialement à Moscou, essentiellement à Moscou et un peu à Saint-Pétersbourg, là où il y a des bobos, en fait, c'est vraiment le... On peut, c'est vraiment des gens qui crachent dans la soupe parce qu'ils ont ce niveau de vie grâce à la politique de redressement national entamée par Poutine en 2000, lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et ils oublient un peu l'origine de leur confort, si on, on appelle ça les ventres pleins. Ma femme, personnellement, elle les appelle d'ailleurs les baranes, c'est les moutons, en quelque sorte, on peut les appeler comme ça, parce qu'ils oublient un peu le passé, ils oublient l'horreur de la période de Yeltsin. C'est pour ça que les Russes, en fait, sont vaccinés du chaos et des promesses révolutionnaires. Leur histoire, qu'on trouve que ça soit bien ou pas bien, peu importe. C'est pas on n'est pas en train de refaire ce qui s'est passé avec la guerre civile en Russie. Non, non, mais simplement, le fait, c'est que les Russes ont subi assez de malheurs depuis un peu plus de 100 ans, et ils veulent aujourd'hui simplement la stabilité. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, sont pour Poutine, mais ils ne sont pas, par exemple, pour le parti Russe Unique, le parti majoritaire. Et ça, en Occident, ils n'arrivent pas à le comprendre parce qu'ils essayent d'analyser la Russie avec leur grille, on va dire, manichéenne, ou le bien, le mal, alors que le monde, c'est un monde de chaos. On essaye de trouver sa place dans le gris, c'est le yin et le yang, mais ces gens-là sont tellement aujourd'hui dans une décadence intellectuelle qu'ils n'arrivent pas à comprendre les nuances de l'intelligence, tout simplement. Mais non, il n'y aura pas, pour simple et bonne raison. Un, c'est que les Russes sont immunisés, justement, de toutes ces manipulations. Deux, que le public russe est éduqué. Le nombre d'émissions de débat n'est pas à 23h, c'est des émissions à 18h, à 19h, à 20h ou à 21h, sur la politique, sur ce qui se passe même en Ukraine, où ils invitent même des nationalistes ukrainiens, vous ne verrez jamais ça en Occident et en France. Sur la géopolitique, les gens ont très bien compris qui est qui et qui fait quoi, qui paye, commande. Et donc on a bien compris la situation. Aujourd'hui, on a à faire face au BND, au service secret allemand, et au service donc de la CIA. Les réseaux Soros, c'est à la rigueur, là, ils sont simplement en appui technique. Ça n'ira pas bien loin. Le week-end prochain, ils vont exactement vouloir faire la même chose. Mais aujourd'hui, on a vu des images, et ça a été diffusé, parce qu'on diffuse énormément d'images à la télé russe, même les images où il y a eu quelques violences policières, ça a été diffusé, où même justement des policiers ont été mis à pied. Il y a même certains qui ont été licenciés, d'autres ont été obligés de s'excuser publiquement. Donc ce n'est pas le même traitement par rapport aux Gilets jaunes en France. Ce n'est pas le même traitement comme ce qui se passe actuellement aux Pays-Bas. Et ce n'est pas le même traitement aux États-Unis vis-à-vis des manifestants. Si on regarde, et en plus d'un point de vue du droit, ces gens appellent l'état de droit, mais si on appelle l'état de droit tel qu'ils ont la conception, mais il y a une décision de justice. Et même la Cour européenne des droits de l'homme, auquel a fait appel Navalny, a condamné la Russie en partie pour un élément technique de son appel, mais n'a pas invalidé la décision, et surtout a précisé que ce n'était pas d'une nature politique. Donc même la Cour européenne des droits de l'homme, dont se réfèrent les contradicteurs et les russophobes en Occident, indique que ce n'est pas une décision politique. Il a été condamné parce que c'est un escroc. Il fait partie de ce petit monde des années 90, des gens qui rentrent en politique pour faire de l'argent. Il a déjà été condamné deux fois. Et même avant, en 2020, il devait se présenter deux fois par mois. Il s'est présenté, quand il se présentait, il se présentait une fois par mois. Il aurait déjà dû être en prison depuis très longtemps. Donc la justice russe, en fait, en réalité, elle est très très gentille avec lui. Et donc, aujourd'hui, les gens en ont conscience. Vous savez, je vais terminer là-dessus pour votre question, non, il n'y aura pas d'énième révolution orange comme ils le pensent. Un, parce que, je le rappelle, la population est éduquée. Et deux, l'histoire rocambolesque de son soi-disant empoisonnement, où les hypothèses, les unes après les autres, se contradisaient, sont terminées sur une histoire d'empoisonnement de son slip. Aujourd'hui, Navalny, c'est le clown au slip. Et vous n'imaginez pas que les Russes vont donner le pouvoir à un clown, parce que c'est l'image qu'il a. Et les gens qui sont autour de lui, ce sont soit des clowns, soit des gens du showbiz, comme Sobchak, que Poutine, on va dire, même protège alors qu'elle est contre lui. C'est une aujourd'hui vedette de la télé-réalité, mais c'est surtout la fille du mentor de Poutine lorsqu'il était à Saint-Pétersbourg. Donc on est dans une situation où certainement, si on compare aujourd'hui, simplement d'un point de vue du droit et de l'application des décisions de justice ou de la sécurité, même par les forces de sécurité, je pense qu'aujourd'hui en Russie, même d'un point de vue factuel, On est plus libre en Russie et la police est certainement plus de retenue que de cet Occident qui commence de plus en plus à dériver, d'ailleurs, dans un environnement psychologique qui aboutit généralement, c'est la base, en fait, c'est la base même avec cette simple séparation du monde en bien ou en mal, avec le refus du dialogue. On est tout à fait dans un régime qui aujourd'hui peut arriver d'un point de vue totalitaire. Et pour moi, on est même dans une pratique fascisante aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Alors qu'en Russie, c'est simplement l'application de la loi, c'est simplement l'application, les forces de l'ordre ont simplement appliqué avec respect, parce qu'ils auraient pu interdire ces manifestations, alors qu'ils les ont encadrées, ils distribuaient des masques, ils distribuaient même du thé, parce qu'il faisait très très froid. Mais aujourd'hui, comme cela a été indiqué, je vais terminer là-dessus, c'est de voir que ces gens, effectivement, ces gens qui manipulent, qui font cela, vont aller jusqu'au bout, ils vont encore provoquer. Mais ça va se terminer comme ça, petit à petit. Mais ils ont franchi une ligne rouge, et cette ligne rouge, c'est la manipulation des enfants, parce qu'il y avait des enfants de 12 ans dans les manifestations, qui n'étaient pas là pour manifester, d'ailleurs, ils étaient là parce que c'était cool. Mais la manipulation, l'utilisation des enfants pour leur politique montre quel est le niveau de morale de ces gens-là. Et après, l'Europe de l'Ouest vient nous parler de droits de l'homme, il vient nous parler, faire les leçons de morale. Non, 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 aujourd'hui, l'Occident n'a plus de leçons de morale à donner à la Russie, qui, d'un point de vue international, fait ce qu'il faut dans beaucoup de régions du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde arabe. Et surtout, la Russie, c'est un État souverain. Et un État souverain, il n'en a strictement rien à faire des positions moralistes des pays étrangers, et en particulier de ces pays de l'Union européenne, que moi j'appelle le NATO-land. Le jour où ils ont retrouvé leur honneur, c'est-à-dire qu'ils reprendront leur souveraineté et qu'ils mettront dehors les soldats américains et qu'ils tendront la main que Poutine a tendue dès qu'il arrivait en parlant de maison commune européenne, à ce moment-là, on pourra discuter effectivement de ce qui est bien ou pas bien en Russie. Jusque-là, ils n'ont absolument rien à dire, et je ne rajouterai pas de mots de vocabulaire parce que je ne veux pas être vulgaire sur votre antenne.
Merci. Fabrice Béor, expert pour l'ONG EOP. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Eli Hatam, juriste international depuis Paris, d'avoir participé à cette émission. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire, et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushich. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Économie post-Covid-19, la recette néolibérale. Le gaz à effet de serre, un prétexte à affamer les populations entières.
en Europe, c'est cette logique qui s'impose. Après avoir entériné la politique de verdissement européen de l'énergie pour atteindre un bilan neutre en carbone, les fonctionnaires de la Commission de Bruxelles continuent sur leur lancée tous azimuts pour préparer les populations à une plongée dans la misère. Comment ? Tous les ingrédients sont rassemblés en effet. Les économies d'énergie, le futur bannissement des moteurs à combustion interne des automobiles, l'installation massive de moulins à vent pour ne produire qu'une énergie aléatoire, le démantèlement programmé de l'énergie nucléaire et enfin la production de viande. Les élevages bovins et porcins sont en effet dans le collimateur. La Commission a élaboré un rapport détaillé à la fin de l'année 2020, ouvrant la porte à la mise en place de directives entrant dans le cadre de la stratégie « La ferme à la fourchette ». Il s'agit de promouvoir dans l'Union européenne un programme équitable, naturel, renouvelable, respectueux de la santé et compatible avec le respect de l'environnement. Le but de ce programme est d'augmenter la disponibilité en sources alternatives de protéines produites par des végétaux, des bactéries, des algues et des insectes. Le document cité en référence précise sans ambiguïté que les populations devront profondément modifier leurs habitudes culinaires. Puis, dans un deuxième temps, finit le lait de vache ou de tout autre mammifère et par voie de conséquence, finit les fromages, puisque ces ruminants émettent un terrible gaz à effet de serre qu'est le méthane. Selon l'organisme non gouvernemental IPIFF, proche de la Commission, il est urgent de développer des aliments préparés à partir d'insectes. Il y a en effet pour cet organisme un formidable gisement de création d'emplois dans tous les pays de l'Europe. La production industrielle à grande échelle d'insectes mettra supposément l'Europe à l'abri des importations d'aliments pour animaux et à l'abri des difficultés d'approvisionnement qui ont émergé durant l'année 2020 en raison de la pandémie. L'Autorité de sûreté des aliments a approuvé les insectes comme nourriture nouvelle, étant considéré qu'il s'agit d'aliments riches en protéines pouvant être facilement produits massivement dans des installations de petite taille. Les insectes sont considérés comme des aliments riches en protéines renouvelables. Il ne fallait pas oublier cette mention très importante. La Commission européenne considère que la baisse violente du niveau de vie de la plupart des Européens, prévue en 2021-2022, les préparera à accepter ce type d'aliments. Est-ce un prélude à une famine institutionnalisée alors même que l'économie néolibérale est sortie totalement la tête basse de l'épreuve pandémique? Le Forum économique mondial, WEF, a organisé une propagande pour conditionner les populations à se convertir aux insectes dans leur assiette et aux eaux usées traitées dans leur verre, dans le but précis de réduire les émissions de carbone. Des instances néolibérales comme des ONG liées à George Soros est également sur le coup, mais pas avec des insectes, mais en investissant massivement dans la viande synthétique. Une bonne occasion pour ramasser un maximum de profits pour financer toutes ces ONG de l'Open Society. Entre une énergie électrique qui deviendra de plus en plus aléatoire et une nourriture que l'on pourrait qualifier de préhistorique, la Commission européenne et le Forum de Davos préparent clairement les peuples européens à reculer de 10 000 ans. Et puisqu'il y a trop d'êtres humains sur la Terre, selon ce même Forum de Davos, à quand la promotion de l'anthropophagie?
Thank you.